Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce quatrième jour de la neuvaine de prière pour les malades. Quand la souffrance interroge, Dieu répond par l'espérance. Après avoir contemplé la souffrance telle qu'elle se déploie dans le tissu des relations humaines et à la lumière de la foi, il nous faut maintenant accueillir ce que la raison et la science contemporaine peuvent nous en apprendre dans un dialogue qui éclaire et approfondit notre compréhension croyante. Car saisir la réalité de la souffrance, c'est reconnaître qu'elle s'enracine dans la structure même de la vie biologique, tout en demeurant ouverte à un mystère qui la dépasse et que seule la foi peut pleinement interpréter. La science contemporaine montre que la souffrance et la mort font partie intégrante de la vie biologique. La biologie moderne révèle en effet que la vie porte, dès son origine, une vulnérabilité constitutive, notamment à travers le processus d'apoptose. Cette mort cellulaire programmée qui permet le développement harmonieux des organismes, soutient le fonctionnement du système immunitaire et participe aux mutations génétiques. Mais ces mécanismes indispensables à la vie, qui rendent la vie possible, peuvent aussi devenir source de maladie et donc de souffrance. S'ouvre ici une problématique fondamentale liée au mystère de l'homme qui vit dans le temps, mais qui se reçoit de l'éternité. Qu'est-ce que vivre dans le temps ? Et comment l'éternité peut-elle s'y inscrire ? La temporalité n'est pas une défaillance de la création. Elle constitue l'environnement même dans lequel la vie biologique se déploie. Son rythme de croissance, de transformation et de vieillissement s'inscrit dans la chair comme une fragilité constitutive. Or, cette fragilité n'est pas un défaut dans l'acte créateur de Dieu. Le livre de la Genèse affirme, au contraire, que toute la création est créée bonne, tov, et à son achèvement, très bonne, tov meod. La temporalité apparaît ici comme la condition de possibilité de l'émergence, de la croissance et de la complexité du vivant. Elle est même, dans la perspective de foi, une œuvre de miséricorde. Elle offre à l'homme, blessé par la chute, un lieu de transformation où sa liberté peut être réappropriée, restaurée et réorientée vers sa fin véritable. C'est d'ailleurs dans cette réalité temporelle que s'accomplit la restauration de la nature humaine par Dieu lui-même. Avec le mystère de l'incarnation, l'éternité vient comme épouser le cœur de la temporalité pour la transfigurer de l'intérieur. La création n'est donc pas imparfaite, mais tout vivant, composé de matière et de forme, ne reçoit sa vie biologique que dans le temps, comme une réalité qui naît, se transforme et s'use. En ce qui concerne l'homme, il devient âme vivante, nefesh haya, après avoir reçu le souffle de vie, nishma chaim, qui précède et fonde son existence corporelle. Le récit de la Genèse montre que Dieu forme l'homme de la poussière de la terre, Adama. Puis, il insuffle ce souffle divin, Nishma Chaim, et qui le fait vivre, Nefesh Raya. Cette structure révèle la condition métaphysique de la nature humaine. La vie créée est bonne, mais n'est jamais autosuffisante. Elle est toujours reçue, soutenue et orientée vers une plénitude. Pour vivre de cette plénitude, l'homme doit choisir et adhérer à la vie offerte pour vivre pleinement de la vie divine insufflée en lui. La temporalité manifeste d'une certaine manière cette oscillation et en même temps cette dépendance fondamentale, ontologique. Mais ce don premier, inscrit dans la bonté de la création, est traversé par une blessure. Celle introduite par le choix d'autosuffisance de l'homme. Le péché des origines qui a obscurci cette relation fondatrice et a déstructuré sa fragilité. Et la révélation affirme que les souffrances humaines ont été multipliées après la chute, comme si le mal moral s'était infiltré au cœur même des limites naturelles pour en alourdir le poids. La fragilité naturelle demeure bonne, mais elle est désormais habitée par une désorganisation intérieure qui amplifie la souffrance et obscurcit la relation à Dieu et à autrui. Saint Jean-Paul II le rappelle dans Salvici Doloris. Le mal demeure lié au péché et à la mort. Et l'on ne peut séparer les souffrances humaines de l'arrière-plan pécheur que l'Écriture appelle le péché du monde. La vulnérabilité biologique devient ainsi le lieu où se manifeste de manière mystérieuse la rupture originelle entre l'homme et Dieu. Pourtant, cette condition de l'homme blessé, marquée à la fois par la fragilité de la nature et la profondeur du péché, n'est pas laissée sans secours. Si la souffrance fait partie de la condition humaine, elle n'est jamais abandonnée à elle-même. Elle devient, dans le dessein de Dieu, un lieu où peut se déployer une œuvre de guérison. La science médicale contemporaine manifeste, à sa manière, cette sollicitude inscrite au cœur de la création. En scrutant les mécanismes de la douleur qui constituent le signe sensible de la souffrance, elle permet d'en comprendre les causes et d'en atténuer les effets. Les progrès de la biochimie de la pharmacologie et des thérapies cliniques offrent aujourd'hui des moyens réels pour soulager et soigner. Ainsi, loin d'être étrangère à la foi, la recherche scientifique participe à une véritable œuvre de miséricorde, en allégeant concrètement le poids qui pèse sur l'humanité souffrante. Cette coopération n'est pas simplement d'ordre technique, elle possède une portée théologique. En effet, l'homme créé à l'image de Dieu est appelé à collaborer à l'œuvre créatrice. Comme le rappelle le Concile Vatican II dans Gaudium et Spes, je cite, « Par son travail, l'homme participe à l'œuvre du Créateur. Chercher à comprendre, à prévenir, à soigner et soulager la souffrance, c'est donc répondre à une vocation inscrite dans la création elle-même, celle d'être coopérateur de Dieu dans le soin de la vie. Dans cette perspective, la technique ne s'oppose pas à la foi. Elle en est, lorsqu'elle est ordonnée au bien de la personne, une expression concrète. Elle prolonge, dans l'ordre du soin, la bonté originelle du dessein divin. Comme le souligne Jean-Paul II dans Salvici Doloris, la souffrance humaine appelle non seulement une interprétation, mais aussi une réponse active de compassion et de solidarité. Lorsque ce savoir scientifique est mis au service des plus fragiles, il s'ouvre alors à une dimension plus profonde encore. Il ne s'agit plus seulement de guérir ou de soulager, mais d'entrer dans une logique de charité. Par une compassion active, celui qui soigne se trouve mystérieusement uni au Christ lui-même, qui a assumé la souffrance humaine pour la transfigurer. Ainsi, l'acte médical peut devenir participant, à sa mesure, à l'œuvre du salut, non pas en supprimant toute souffrance, mais en la portant avec l'autre, en la traversant avec lui, et en y faisant déjà rayonner une présence de miséricorde. Il nous faut maintenant descendre encore plus profondément au cœur même de la personne humaine. Il existe en l'homme un lieu plus intérieur, plus secret, que la souffrance ne peut jamais totalement atteindre. La tradition biblique appelle ce lieu le cœur. Non pas le cœur au sens affectif ou sentimental, ni biologique, mais le cœur comme centre de l'être, comme lieu de la décision, de la liberté, de la vérité de la personne. C'est ce que l'Écriture désigne lorsqu'elle affirme « L'homme regarde l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Cette vision de l'homme est en opposition avec les courants matérialistes qui rejettent toute idée d'un principe spirituel. Selon eux, l'homme se réduit à sa dimension biologique et à son activité mentale. Son activité mentale résulte uniquement des processus cérébraux. Certains neuroscientifiques cherchent même à localiser la conscience dans le cerveau, en espérant ainsi démontrer qu'elle n'est qu'un phénomène purement biochimique, physique. Non, l'homme ne se résume pas à la matière. Son âme ne peut avoir son origine qu'en Dieu seul. C'est ce que la révélation biblique nous enseigne. Nous lisons dans le livre de la Genèse « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. » L'homme est créé « Betsalmenu » dans notre ombre. Nous l'avons médité hier, ce qui exprime sa dimension ontologique. Il est inscrit dans la présence même de Dieu. Il est aussi créé l'homme kid me kid mutenu, selon notre ressemblance. Terme lié à la racine est très proche du mot dame, qui veut dire sang, le sang. Cette parenté, donc cette ressemblance, renvoie à la parole biblique « L'âme est dans le sang, car la néphèche de la chair est dans le sang. » Cela exprime la dimension dynamique. L'homme est consanguin de Dieu, porteur d'une parenté vitale avec lui, et appelé à devenir par grâce ce qu'il est en germe. Ainsi, l'ombre renvoie à l'origine de l'homme, divine de l'homme, tandis que la ressemblance révèle sa vocation ultime, qui est de croître dans la ressemblance de son Créateur. Cette dignité intérieure de l'homme, enracinée dans son origine divine et orientée vers une communion plus grande que lui-même, ouvre alors une perspective essentielle pour comprendre la souffrance. Car si l'être humain porte en lui une profondeur que la matière ne peut épuiser, alors la souffrance elle-même ne peut atteindre le dernier fond de la personne. Il existe au cœur de l'homme un lieu plus intérieur que toutes ses blessures, comme un sanctuaire où demeure intacte la possibilité de la rencontre avec Dieu, de la liberté et de l'espérance. C'est là, dans cette profondeur inviolable, que l'être humain porte la marque la plus vive de son origine divine et l'appelle à accomplir sa vocation de ressemblance. Le cœur, c'est la racine même de la personne, là où elle se tient devant Dieu. Il correspond à ce sanctuaire intérieur où résonne une loi qui dépasse l'homme lui-même, l'appelant au bien et à la vérité. Le cardinal John Henry Newman qualifiait ainsi la conscience de premier vicaire du Christ, insistant sur le fait qu'elle n'est pas une simple construction sociale, mais une véritable messagère divine. Je le cite. « La conscience est une loi de notre esprit, mais qui dépasse notre esprit, qui nous fait des injonctions, qui signifie responsabilité et devoir, crainte et espérance. Elle est la messagère de celui qui nous parle à travers le voile, nous instruit et nous gouverne. Les maîtres spirituels ont cherché à nommer ce lieu intérieur. Ils parlent du centre de l'âme, de la cime de l'âme, de la fine pointe de l'âme, ou encore de la chambre secrète du cœur. Toutes ces expressions disent une même réalité. En l'homme existe comme un espace intérieur, comme un sanctuaire où Dieu habite et agit, souvent à son insu, souvent enfui et ou nié. Il est le lieu où l'homme fait ses choix les plus profonds et rencontre Dieu. Dans la société civile, cette notion se reflète encore dans la clause des consciences, de conscience, qui protège la liberté individuelle contre toute obligation contraire aux convictions intérieures. Et c'est là un point absolument décisif pour comprendre la souffrance. Elle ne peut jamais tout envahir. Elle peut être immense, écrasante, envahir le corps, les relations, mais elle ne descend jamais, jamais, jusqu'au fond ultime de l'être, où Dieu demeure. Et cela même dans les vies les plus abîmées, et nous en connaissons, il subsiste ce lieu de vie impénétrable. En effet, il y a des existences qui semblent brisées de part en part, des personnes essorées par la vie, marquées par la violence, la dépendance, la misère intérieure ou extérieure. À vue humaine, le poids de leur souffrance semble parfois obscurcir toute perspective de rémission, de guérison, et réduire la vie au désespoir et à la mort. Mais la foi offre une autre intelligence de la réalité. Elle enseigne que la souffrance s'inscrit dans le mystère d'un Dieu qui demeure présent au cœur même de l'épreuve. Elle révèle que la douleur et la souffrance n'ont pas la souveraineté sur la vie, que la liberté humaine n'est jamais totalement détruite et que la grâce peut toujours rejoindre l'homme dans sa souffrance. Ainsi, là où l'expérience sensible ne perçoit plus d'issue, la foi discerne encore une présence agissante, une promesse de vie et la certitude que Dieu peut tirer un bien plus grand de ce qui semblait n'être que perte. C'est pourquoi les saints, et en particulier Petite Thérèse, nous apprennent à discerner, même dans le plus grand pécheur ou dans l'homme le plus défiguré, une présence cachée de Dieu, non perceptible à première vue, mais réelle, intacte, mystérieusement préservée. Pour entrer dans cette intelligence du cœur, tournons-nous vers Thérèse, qui en offre un témoignage lumineux. Contemplant Jésus crucifié, Thérèse découvre l'amour rédempteur comme une source offerte à tous. Elle se tient spirituellement au pied de la croix comme une épouse qui veut donner à boire à son bien-aimé. Et c'est là que s'ouvre en elle une fécondité nouvelle. Elle devient mère. Non pas selon la chair, mais par la puissance du sang du Christ qu'elle accueille et qu'elle désire offrir aux âmes. C'est dans ce contexte qu'elle reçoit comme premier enfant un criminel condamné à mort, Pranzini. À vue humaine, tout semble perdu. Cet homme va mourir sans signe de repentir. Mais Thérèse refuse de désespérer. Elle écrit « Je voulus à tout prix l'empêcher de tomber en enfer, c'est-à-dire dans des souffrances éternelles. Et ce prix n'est autre que le sang du Christ. Elle fait célébrer la messe pour lui et pose un acte d'espérance dépassant toute attente. Même s'il ne se confessait pas, tant j'ai confiance en la miséricorde infinie de Jésus. Au moment de son exécution, ce criminel, Pranzini, saisit le crucifix et en embrasse les plaies. Ce geste bouleverse Thérèse. Elle y reconnaît une réponse du ciel. Celui qu'elle portait dans la prière est venu boire à la source même du salut. Elle comprend alors que son désir était né en contemplant ce sang versé. Je voulais leur donner à boire ce sang immaculé. Un échange d'amour s'établit. Elle offre les âmes à Jésus et Jésus lui confie ses âmes à aimer et à sauver. Cette expérience est fondatrice. Nous allons l'approfondir dans une autre méditation. Elle révèle une vérité essentielle. Aucun être n'est jamais définitivement perdu tant que la miséricorde de Dieu peut le rejoindre. Thérèse ira jusqu'à désirer le salut de toutes les âmes qui sont sur la terre et même de prier pour qu'il n'y en ait pas une seule de damnée. Cette audace, loin d'être de la naïveté, elle est une participation à l'amour même du Christ. Thérèse met en lumière cette espérance maternelle qui ose croire au salut même des plus éloignés. Car la miséricorde de Dieu est assez grande pour effacer les plus grands crimes lorsqu'elle trouve un cœur qui espère. Ainsi, à la lumière de Thérèse, nous comprenons que, même dans le cœur le plus blessé, le plus fermé, le plus éloigné en apparence, demeure une possibilité de vie. L'exemple de Pranzini en est une illustration saisissante. Cet homme, au seuil de la mort, est apparemment enfermé dans l'impénitence, trouve encore la force d'embrasser le crucifix. Ce geste, simple et décisif, manifeste qu'au plus profond de lui-même subsistait une ouverture, une source cachée que rien n'avait pu totalement éteindre. Car au-delà, ou plutôt en deçà de toute souffrance, il existe en l'homme une source de vie, une source de joie profonde, une source d'espérance. Cette source n'est pas produite par l'homme lui-même. Elle vient de Dieu qui habite en lui. Elle peut être recouverte, obscurcie, oubliée, mais ne sera jamais anéantie, tarie. Cela signifie que la souffrance, aussi réelle et terrible soit-elle, n'a jamais le dernier mot sur l'être humain. Elle peut atteindre profondément la relation à autrui. Elle peut blesser l'image que l'homme a de lui-même. Elle peut même obscurcir sa relation à Dieu. Mais elle ne peut pas anéantir ce lieu intérieur où Dieu continue d'agir en silence. C'est sur cet arrière-fond que nous devons comprendre le mystère de la souffrance. Non pas en la niant ni en la minimisant, mais en reconnaissant qu'elle touche un être façonné pour la relation, parce qu'elle est habitée par Dieu. Une personne qui, au plus profond d'elle-même, demeure en relation avec Dieu, même lorsqu'elle l'ignore ou le rejette. Cette conviction est au cœur de la foi chrétienne. Elle ne s'impose pas comme une évidence, mais se donne à recevoir comme une lumière de la révélation, car elle montre un passage vers la nouveauté de la vie. Croire qu'au plus profond de la souffrance, la même où tout semble perdu, subsiste en l'homme un sanctuaire intérieur où la vie divine, la grâce et l'espérance peuvent encore se déployer dans une nouveauté radicale et que rien ne peut abolir. C'est là, dans ce lieu secret où Dieu demeure, que retentit la promesse du Seigneur Jésus ressuscité. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Amen.